le journal d'Émilie Moumentaler.
Bonjour, le monde a les yeux rivés sur les États-Unis. Les Américains doivent départager la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump aujourd'hui lors de l'élection présidentielle. Une prévotoise établie en Floride fait part de la tension sur place, alors que l'élection intéresse aussi la Berne fédérale. La haute école spécialisée de Suisse occidentale ne reviendra pas en arrière. La taxe semestrielle va augmenter de 40% dès la rentrée 2025. Le comité gouvernemental ne craint pas de perdre des effectifs. De leur côté, les étudiants redoutent une certaine forme d'élitisme. Une équipe de Swiss Basketball League fait son retour au chaudron. Néo-promu en Ligue B, le BC Moncourt reçoit ce soir Lugano en Coupe de Suisse. Un bel apprentissage en perspective pour la jeune équipe jurassienne. Météo, la grisaille laisse la place au soleil. Un bel après-midi est annoncé sur toute la région. Le mercure ne dépassera pas les 11 degrés en plaine, alors qu'il fera jusqu'à 15 degrés aux Franches-Montagnes. Les États-Unis sont au centre de l'attention. Les citoyens élisent ce mardi leur président ou leur présidente. La démocrate Kamala Harris s'est opposée au républicain Donald Trump pour ce qui devrait être l'une des élections présidentielles les plus serrées de l'histoire en Amérique. La prévotoise Suzanne Zwissig vit en Floride depuis 50 ans. Elle a embrassé très vite la cause des démocrates. Elle nous raconte la tension qui règne sur place à l'approche du verdict des urnes. Suzanne Zwissig.
Nous essayons de sortir et de ne pas trop regarder les nouvelles tous les jours, tout le temps, et de faire certaines choses, de faire un peu de sport, des choses qui nous aident à nous relaxer.
La tension est comme ça forte, on est obligé de se sortir de là.
Très, très, très fort. Surtout des personnes qui voient que c'est un assaut sur la démocratie, les droits des femmes et tout ça.
La question du droit à l'avortement, qui est menacée sur tout le territoire américain désormais, est centrale dans le débat. Est-ce que les femmes se mobilisent particulièrement cette année ?
Énormément. Il y a énormément de femmes qui se mobilisent. Et une des choses qui est devenue très normale, c'est que très souvent le matin, quand on met la télévision, on voit qu'il y a un nouveau groupe de personnes, de républicains, qui n'ont pas les idées libérales avec l'économie et tout ça, mais qui décident de joindre Kamala Harris.
Suzanne Zwissig, prévotoise établie depuis 50 ans aux États-Unis, était au téléphone d'Olivier Zano. Et comme le reste du monde, la Suisse et la Berne fédérale ont les yeux rivés sur l'élection américaine. Un sondage mené par l'Institut Gallup et repris ce matin par le groupe Tamedia montre que 61% des personnes interrogées en Suisse soutiennent Kamala Harris et 25% Donald Trump. Le soutien aux candidats républicains est plus marqué en Suisse qu'en France, en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Du côté des parlementaires fédéraux, on préférait que la candidate démocrate l'emporte. De Berne, les précisions de Serge Jubin.
Il n'y a pas eu de sondage digne de ce nom auprès des 246 membres du Parlement fédéral. On peut toutefois extrapoler diverses prises de positions individuelles pour constater que Donald Trump a des soutiens à l'UDC, quelques-uns au PLR, pour des raisons économiques. Mais qu'une assez large majorité lui préfère la démocrate Kamala Harris pour éviter l'imprévisibilité, à l'instar du socialiste neuchâtelois Baptiste Tourny.
On serait dans une grande stabilité de la politique internationale et sécuritaire, ce qui signifie, pour ce qui préoccupe le plus la Suisse aujourd'hui peut-être, un soutien continu à l'égard de l'Ukraine et donc pas un effondrement du gouvernement ukrainien faute de soutien international.
Même s'il reconnaît que les intérêts économiques de la Suisse pourraient faire pencher pour Donald Trump, le président de l'association parlementaire Suisse-États-Unis, Damien Côtier, estime que les valeurs de la démocratie doivent primer.
Il y a toute la question de l'équilibre du monde, de la sécurité, de la stabilité, de la démocratie. Là, probablement que ça ne penche pas du côté d'une candidature de Donald Trump. En termes de sécurité et d'équilibre du monde, très certainement qu'un gouvernement Harris serait beaucoup plus prévisible et beaucoup plus favorable au fond aux défenses des valeurs de la démocratie. Et je crois qu'on ne doit pas perdre ça de vue.
L'UDC bernois Manfred Buller a un avis opposé. Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre, tout au contraire.
Je laisse à la politique intérieure des États-Unis le côté impulsif que l'on prête à Donald Trump. Je crois que sur le plan des relations internationales, il a montré qu'il était capable d'avoir une vraie vision de long terme positive pour notamment ne pas lancer de nouveaux conflits armés.
Pour en revenir au sondage Gallup, qui s'est aussi intéressé à l'image qu'auront les États-Unis avec Donald Trump ou Kamala Harris à la Maison-Blanche, 16% des Suisses pensent que cette image se bonifierait avec le républicain aux affaires, mais 59% s'attendent à l'inverse à une péjoration.
Et Révji vous fera vivre cette élection présidentielle américaine dont le dénouement reste indécis demain lors d'une matinale spéciale entre 6h et 9h. Nous vous proposerons notamment des interventions en direct de nos correspondants à Washington et à New York. Une hausse de 40% qu'il leur reste en travers de la gorge. Les étudiants de la HES SO, la haute école spécialisée de Suisse occidentale, verront leur taxe semestrielle passer de 500 à 700 francs dès la rentrée 2025. Pour le comité gouvernemental, qui regroupe des représentants des 6 cantons fondateurs, dont le Jura, il est normal que les étudiants prennent leurs responsabilités en participant eux aussi à la hausse des coûts de formation. Président du comité, Christophe Darbelet, ne craint pas de perdre des effectifs.
Non, ça ne va pas se produire. Aujourd'hui, la HESSO est une école qui est reconnue sur le plan national et international. Elle a 20 000 étudiants. Ses études sont de grande qualité. L'essentiel de ces montants vont bénéficier aux écoles elles-mêmes et par conséquent à la qualité de l'enseignement. Donc je pense que c'est un investissement qui est raisonnable. Et les étudiants doivent aussi faire leur part dans ce contexte-là où les pouvoirs publics payent quand même l'essentiel de la facture.
Pour une partie des étudiants, cette décision est dangereuse, elle rend l'accès à la HESSO plus compliqué. Une forme d'élitisme, explique Ruth, étudiante à la Haute École de Santé de Fribourg.
Globalement, c'est une mesure que seules les personnes les plus privilégiées pourront se permettre de vivre sans avoir de grosses modifications dans leur train de vie. En plus de ça, nous voyons par exemple dans les professions de la santé, dans les professions du social et dans tout un tas de professions, une énorme pénurie. Et augmenter ces taxes ne va que augmenter ce problème de pénurie.
Un dossier de nos confrères de Radio Fribourg, une pétition contre cette décision circule. Elle a déjà réuni plus de 3000 signatures. Une instruction pénale a été ouverte par le ministère public à l'encontre d'un enseignant de la Fondation rurale interjurassienne. C'est ce que révèle le quotidien jurassien dans son édition du jour. La FRI, qui employait l'homme à 100%, l'a licencié avec effet immédiat le 22 octobre dernier. C'est ce que nous a confirmé le directeur de l'organisme, Olivier Girardin. Ce sont des apprentis qui ont alerté la direction à propos de liaisons inappropriées et trop intimes, notamment sur les réseaux sociaux entretenus par cet enseignant à leur égard. Le taux de chômage connaît une légère hausse dans le canton du Jura. À la fin octobre, il a progressé de 0,2 points pour s'établir à 4,3%. Cela représente 73 chômeurs de plus qu'à la fin septembre, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le secrétariat d'État à l'économie. Par rapport à la même période l'année passée, le taux de chômage a connu une augmentation de 0,9 points. Au plan national, il reste à 2,5%. Détails sur rfj.ch. C'est le dernier vote populaire direct dans le Jura en vue de l'intégration de Moutier dans le canton. Le peuple devra se déterminer le 24 novembre sur une modification de la constitution cantonale qui permettra la création du district de Moutier. La cité prévotoise bénéficiera ainsi de son propre cercle électoral pour une période transitoire de 5 ans et d'un guichet unique pour délivrer les prestations de l'État. Le vote ne suscite pas d'opposition et son issue semble assurée, mais il comporte tout de même d'importantes implications. Décryptage avec François Comte.
Le futur district de Moutier disposera de 7 sièges de députés sur 60 au Parlement jurassien. Celui de Delémont perdra ainsi 4 fauteuils, celui de Porrentruy 2 et celui des Franches-Montagnes comptera un élu de moins. La nouvelle répartition est toutefois prévue pour une période transitoire de 5 ans. Le chancelier cantonal explique pourquoi, Jean-Baptiste Maître.
Parce qu'on est forcé par la jurisprudence fédérale qui fixe des règles en matière de quorum naturel. Le quorum naturel, c'est le nombre de pourcentage de voix qui vaut pour avoir un siège au Parlement. Et la jurisprudence fédérale a fixé ce minimum à 10%. Avec Moutier qui représentera 7000 habitants, 7 députés, on est au-delà des 12,5%, donc on ne respectera pas le quorum, donc on est tenu à modifier le système dans un délai assez court. Et c'est ce qu'on propose de faire durant la législature 2026-2031 avec un système plus représentatif, plus égalitaire entre l'ensemble des districts.
La période transitoire doit permettre de réformer l'attribution des mandats au Parlement. Plusieurs choix existent, comme un nouveau découpage des districts ou encore une nouvelle méthode de calcul des sièges, mais le gouvernement privilégie la piste du cercle électoral unique. Quid si aucune solution n'est trouvée, in fine, la réponse de Jean-Baptiste Maître.
Si aucune majorité politique a pu être trouvée, si le peuple a refusé le système que le gouvernement et le Parlement lui proposeront d'ici 3-4 ans, alors le système devra se prolonger, je dirais par défaut. Dans tous les cas, on devra trouver une solution à terme pour changer le système.
L'autre implication du vote du 24 novembre, c'est donc la création d'un guichet unique qui permettra d'assurer une desserte des prestations l'action de l'État de manière centralisée à Moutier. Le concept fonctionnera à titre de projet pilote et pourra être étendu aux autres districts dans un second temps. On retrouve le chancelier cantonal.
À terme, l'idée derrière la mondialisation de l'État et le guichet unique, c'est d'avoir un seul guichet pour l'ensemble des prestations de l'État de base, où c'est que le citoyen pourra se rendre pour obtenir une attestation de domicile, une attestation de citoyenneté ou alors un certificat quelconque, et puis n'ira dans les services de l'État que pour des rendez-vous spécifiques pour traiter des problèmes de second ou troisième niveau.
Un non à la modification de la constitution cantonale paraît assez improbable. Une seule voix en ce sens s'était manifestée lors des deux lectures au Parlement. Une telle hypothèse remettrait tout en cause, à commencer par la création d'un district pour Moutier, comme l'indique Jean-Baptiste Maître.
Si la modification constitutionnelle qui est proposée est rejetée, c'est-à-dire que Moutier devrait être intégré dans un des trois autres districts existants. Si on pense par exemple à Delémont, vu que c'est le plus proche de Delémont, ça veut dire que les citoyens de Moutier seront cumulés aux citoyens du district de Delémont. Ça fera un district qui représentera près de 55% de la population jurassienne et qui aura droit à 55% des sièges au Parlement. Ça nécessitera donc d'autres modifications légales, pas celles qui sont proposées, mais d'autres modifications légales pour intégrer Moutier dans un des districts et puis modifier le système en conséquence.
Un tel scénario relèverait presque de la politique fiction. Quoi qu'il en soit, ce sont les jurassiens qui ont le dernier mot.
La votation cantonale jurassienne sur la création du district de Moutier aura donc lieu le 24 novembre. Et le 24 novembre, la population votera aussi pour élire un nouveau ministre qui succédera à Jacques Gerber au gouvernement jurassien. Pour vous forger une opinion, RFJ ouvre le débat ce soir à 18h20 avec les trois candidats. Pauline Godat des Verts, Stéphane Teria du Centre et Pascal Prince d'Helvetica en découdront sur plusieurs thématiques. Les auditeurs peuvent poser par WhatsApp leurs questions aux candidats qui y répondront en direct durant le débat, qui sera à suivre sur nos ondes et en vidéo sur rfj.ch. Courgenay devrait bientôt accueillir plusieurs nouvelles entreprises. La CEDRAC a pour projet de développer la zone d'activité Ajoulotte. Pour cela, quelques 60 000 m² de terres agricoles devront être déclassés. Les précisions de Thierry Crétin, président de la Société d'équipement et de développement de la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs et invité de la matinale.
Des accords ont été signés avec des agriculteurs, d'autres suivront. Il ne faut pas oublier que c'est un développement sur les 20 prochaines années. C'est une zone qui a été définie dans le cadre de l'aménagement du territoire au niveau cantonal. Alors oui, on déclasse des terres, mais c'est sûr qu'on s'occupe aussi en parallèle des zones friches qui sont existantes dans le district de Porrentruy.
À Courgenay, quels sont vos objectifs? Combien d'entreprises voulez-vous attirer? Combien d'emplois souhaitez-vous accueillir sur cette nouvelle zone?
Alors le nombre d'emplois, c'est toujours difficile parce qu'on a des zones, ensuite on morcelle en fonction des demandes des entreprises, mais entreprises innovantes, créatrices d'emplois, et puis aussi qui sont susceptibles de faire aussi revenir nos jeunes dans la région avec des formations donc adéquates.
Thierry Crétin répondait à Marceline Michon de la matinale. Entretien complet sur rfj.ch.
Vous écoutez RFJ, il est 12h28.
Sport. Le Chaudron retrouvera l'espace d'une soirée, le parfum de l'élite du basketball suisse. Le BC Boncourt accueille l'équipe de Swiss Basketball League de Lugano en 8e de finale de la Coupe de Suisse. On n'avait plus vu une équipe de première division à Boncourt depuis le printemps 2023. Un défi énorme pour la jeune équipe jurassienne qui vient de remporter son premier succès en Ligue B dimanche. Son entraîneur Nemanja Chalazan estime que ses joueurs apprennent beaucoup de ce genre de match face à des effectifs de haut niveau.
Bien sûr, par exemple, on a Antonio Ballard, on a Thomas Jurkovic à l'autre côté, aussi les deux nouveaux Américains, on peut apprendre beaucoup de choses. De manière jouer, l'intensité, les vitesses, les forces, ça c'est un autre route ou un autre chemin pour apprendre les choses. Et je suis personnellement très content pour mes joueurs parce que ça c'est une magnifique expérience. Pour eux, je joue contre une équipe SBL. Et deuxième chose, je suis très content pour la région parce que après 2 ans, la SBL retourne à Boncourt. J'ai utilisé cette situation pour inviter tous les supporters pour venir au match et soutenir notre jeune.
Coup d'envoi de ce 8e de finale de la Coupe de Suisse de basketball entre le BC Boncourt et Lugano à 19h30 au Chaudron. Merci pour votre écoute et bel après-midi.